Le Monde aujourd'hui, Jean-Roger Billon à ce micro, au sommaire de cette édition du vendredi 24 janvier 2025. Les combats dans l'est de la RDC se sont intensifiés aujourd'hui. Les États-Unis, le Royaume-Uni et la France appellent leurs ressortissants à quitter Goma.
Je ne saurais pas confirmer ni infirmer. Nous tous, nous sommes secoués par toutes ces informations qui tombent sur la mort du gouverneur militaire.
Nikèze Kibel-Beloka, éditeur du journal Les Coulisses, fera le point dans la partie magazine. Au Mozambique, un journaliste a été retrouvé mort après un passage à tabac par la police. Le président Donald Trump se déplace aujourd'hui en Caroline du Nord et en Californie, deux États éprouvés par des catastrophes naturelles. Les États-Unis ont commencé l'expulsion de centaines de migrants clandestins. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. On commence par le journal. Au Soudan, l'armée a levé le siège de la base militaire Signal Corps à Khartoum Nord, encerclée depuis avril 2023 par les forces de soutien rapide. Selon une source militaire, cette avancée vise à relier les forces de cette base au quartier général de l'armée, lui aussi assiégé à proximité. Cette progression intervient après la reprise récente de Wad Madani au sud de Khartoum. L'armée qui contrôle déjà Omdurman à l'ouest du Nil cherche à consolider ses position dans les principaux secteurs de la capitale soudanaise. Les affrontements ont repris aujourd'hui dans l'est de la République démocratique du Congo entre l'armée congolaise et le groupe armé M23. L'ONU évoque le chiffre de 400 000 déplacés par les combats depuis début janvier. Jacques Aristide.
Après l'échec d'une médiation RDC-Rwanda sous l'égide de l'Angola, le M23 a repris du terrain ces dernières semaines et encercle désormais la capitale provinciale Goma qui compte 1 million d'habitants et au moins autant de déplacés. Le président congolais Félix Tshisekedi a tenu dans la soirée d'hier une réunion de crise, selon son bureau, avant de présider en conseil de défense ce vendredi. Selon des sources militaires et onusiennes, le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général Pite Sirimwami, touché par balle hier près d'une ligne de front, est mort ce matin. Hier soir, le chef de l'ONU, Antonio Guterres, s'est dit alarmé par le regain de violence dans la région et a condamné une offensive du M23 qui pourrait aggraver, selon lui, le risque d'une guerre régionale. Le Rwanda est accusé de soutenir ce groupe rebelle, ce que Kigali a toujours nié. La Turquie, très active sur le continent africain, propose de mener une médiation Kinshasa-Kigali. Une demi-douzaine de cessez-le-feu et trêves ont déjà été décrétés dans la région, puis rompus. Le dernier cessez-le-feu a été paraphé fin juillet.
Les ambassades américaines et françaises en RDC et le ministère des Affaires étrangères britannique ont appelé leurs ressortissants à quitter Goma tant que les aéroports et les frontières sont encore ouverts en raison du risque de dégradation rapide de la situation sécuritaire liée au conflit dans l'est de la RDC. Un journaliste retrouvé mort au Mozambique, selon une organisation de défense des droits humains, il aurait été battu par les forces de sécurité dans une région où il couvrait l'insurrection islamiste. Alexandrine Oloyon.
Arlindo Tissali, rédacteur en chef du site d'information Pineapple News, avait été vu pour la dernière fois le 7 janvier, alors qu'il voyageait en minibus entre les villes de Pemba et Nacala, selon un communiqué du Centre pour la démocratie et les droits humains. Les forces de sécurité ont arrêté le véhicule et lui ont ordonné de monter dans une voiture banalisée, indique l'organisation. Tissalé a résisté à leurs ordres, mais a été violemment battu sur place et forcé à monter dans une voiture blanche sans plaque d'immatriculation, occupée par 3 policiers en uniforme et 5 civils, précise le communiqué. Arlindo Tissalé couvrait depuis des années l'insurrection dans le nord gazier du Mozambique. Il était également militant et avait soutenu le chef de l'opposition Venancio Mondlane lors des récentes élections. Le silence des autorités sur cette affaire légitime les soupçons selon lesquels Tissalé a été enlevé puis exécuté par la police en raison de son travail de journaliste et de son soutien à Venancio Mondlane, ajoute l'organisation.
Au Sénégal, l'Assemblée nationale a voté la levée de l'immunité parlementaire de Mouamadou Ngom, député d'opposition et proche de l'ancien président Macky Sall, soupçonné de blanchiment d'argent et d'irrégularités financières impliquant plus de 192 millions d'euros. Cette décision permettra au parquet du pôle judiciaire financier d'interroger M. Ngom. Ce dossier s'inscrit dans la volonté du nouveau président Bassirou Diomaye Faye de rompre avec les pratiques du passé et de renforcer la lutte contre la corruption. Au Comores, l'ex-candidat à la présidentielle Ahmed Saïd Mohamed est en grève de la faim depuis 5 jours, dénonçant plus d'un an de détention provisoire sans procès pour complot et tentative d'actes terroristes. Leader du mouvement URIS, cet universitaire de 48 ans a été arrêté en janvier 2024, peu avant l'élection présidentielle, et est détenu depuis à Moroni, la capitale. Ahmed Saïd Mohamed demande un procès, une libération et laisse entendre que sa santé pourrait se dégrader davantage. Sous perfusion, il n'a reçu aucune réponse des autorités judiciaires ou des droits de l'homme, selon son avocat.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les États-Unis ont commencé à expulser des centaines de migrants clandestins renvoyés à bord d'avions militaires, la Maison-Blanche se targuant d'avoir lancé l'opération d'expulsion de masse la plus grande de l'histoire. Les précisions de John Lindon.
L'administration Trump a arrêté 538 migrants criminels illégaux, a annoncé sur X la porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, ajoutant que des centaines avaient été expulsés dans des avions de l'armée. L'opération d'expulsion de masse la plus grande de l'histoire est en cours, a écrit la porte-parole, ajoutant « promesse tenue quelques jours seulement après l'investiture de Donald Trump ». L'ONU a rapidement réagi ce vendredi en rappelant à Washington que le droit à l'asile était universellement reconnu. Tous les États ont le droit d'exercer leur juridiction le long de leurs frontières internationales, mais ils doivent le faire conformément à leurs obligations en matière de droits de l'homme, a rappelé la porte-parole du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, Ravina Shamdazani. Donald Trump s'était engagé à une vaste offensive contre les migrants clandestins durant sa campagne et il a entamé son second mandat lundi avec une série de décrets destinés à enrayer leurs afflux aux États-Unis.
Donald Trump a quitté ce vendredi la Maison-Blanche pour son premier déplacement en Caroline du Nord et en Californie, deux États éprouvés par des catastrophes naturelles. Les détails avec Dilly Dico.
Le président Donald Trump est arrivé en Caroline du Nord vers 11h, heure locale, pour faire le point sur la situation. Cet État a été touché en octobre en pleine campagne présidentielle par l'ouragan Helene qui a fait 104 morts. Donald Trump avait alors critiqué la gestion de cette crise par le président Joe Biden et la vice-présidente Kamala Harris. Il se rendra en Californie, dévasté par des incendies qui ont fait au moins 28 morts et détruit 17 000 structures. Le président va rencontrer des pompiers et des personnes touchées par les feux. Dans le viseur du président Trump, la FEMA, l'Agence fédérale de réponse aux catastrophes naturelles. Cet organisme va faire l'objet d'une grosse discussion sous peu parce que je préférerais voir les États fédérés s'occuper de leurs propres problèmes, a dit le président à Fox News. Dans le même entretien, il a lancé aux autorités californiennes « Je ne pense pas que nous devrions donner quoi que ce soit à la Californie jusqu'à ce qu'ils laissent l'eau couler du nord au sud de l'État pour lutter contre les feux ». Donald Trump a à plusieurs reprises affirmé que la Californie manque d'eau à cause des politiques environnementales démocrates.
Le président russe Vladimir Poutine a fait savoir aujourd'hui qu'il était ouvert à des discussions avec le président américain Donald Trump sur des questions telles que la guerre en Ukraine et les prix de l'énergie et a déclaré que ce serait une bonne idée que les deux se rencontrent. L'Ukraine est opposée à toute négociation de paix entre Vladimir Poutine et Donald Trump si Kiev et l'Europe ne sont pas impliqués, a prévenu aujourd'hui la présidence ukrainienne. Poutine veut négocier le sort de l'Europe sans l'Europe, Poutine doit lui-même revenir à la réalité ou il sera ramené à la réalité, a martelé le chef de l'administration présidentielle ukrainienne, Andriy Yermak, sur Telegram. Un tribunal sud-coréen a rejeté la prolongation de la détention du président destitué Yoon Suk-yeol, arrêté pour insurrection après sa tentative ratée d'instaurer la loi martiale. Cependant, il reste en détention provisoire. M. Yoon est soupçonné d'insurrection et d'abus de pouvoir, mais il refuse de coopérer à l'enquête qu'il juge illégale. Une audience distincte devant la Cour constitutionnelle pourrait confirmer sa destitution, entraînant une élection présidentielle dans les 60 jours. Pour l'instant, il reste officiellement chef de l'État malgré sa suspension. Et puis, le Hamas a publié aujourd'hui les noms de 4 soldats israéliennes devant être libérées samedi dans le cadre d'une deuxième série d'échanges avec des prisonniers palestiniens détenus par Israël, conformément à l'accord de trêve dans la bande de Gaza. Les 4 otages retenus à Gaza depuis le 7 octobre 2023 doivent être échangés contre un nombre inconnu de prisonniers palestiniens détenus en Israël. Voilà pour le journal. Vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute éco avec Nathalie Barge.
Au Mali, un communiqué du dernier Conseil des ministres indique que le gouvernement va mener une lutte implacable contre les exploitations illégales de ressources minérales. Les exploitants illégaux causent d'énormes dégâts à l'environnement et contribuent à l'alimentation des réseaux de trafic de drogue, d'armes, de personnes, de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, indique le texte. Les autorités ont démantelé plus de 60 sites illégaux et saisi de nombreuses pelleteuses et véhicules. Fortuna Mining prévoit une hausse progressive de production de la mine d'or Séguéla en Côte d'Ivoire sur 2 ans. La nouvelle mine a produit plus de 130 000 onces l'an dernier et devrait en livrer jusqu'à 180 000 en 2026. En 2024, elle a enregistré une hausse de 75% en glissement annuel. La Côte d'Ivoire détient 10% d'intérêt de Séguéla et le code minier prévoit une redevance sur les ventes avec un taux entre 3 et 6%. L'économie africaine devrait garder son dynamisme en 2025 avec une croissance de 4%, mais seulement de 2% en termes de croissance par habitant, selon les prévisions de l'Agence française de développement présentées jeudi. Parmi les pays en croissance sont cités le Sénégal avec le début de l'exploitation gazière, le Niger avec le pétrole, la RDC et la Zambie avec le cuivre, ainsi que les pays exportateurs d'or comme le Ghana ou le Mali, qui bénéficient de la hausse du cours de cette valeur refuge.
Place maintenant au sport avec Bagassi Koura. Bonsoir Bagassi.
Oui, bonsoir Jean-Roger Bion, bonsoir à tous.
NBA, LeBron James titulaire pour son 21e All-Star Game.
Oui, les Kings, LeBron James sera sans grande surprise titulaire à 40 ans pour son 21e All-Star Game. Un record le 16 février à San Francisco, c'est ce qu'a annoncé la NBA ce jeudi. Le Français Victor Wembanyama devra attendre la semaine prochaine pour savoir s'il est sélectionné en tant que remplaçant pour une première participation après avoir été tout proche de figurer parmi les 5 titulaires de la conférence Ouest.
NBA toujours avec ce résultat hier du match Spurs-Pacers à Paris.
Accueilli triomphalement à Paris 6 mois après les JO, Victor Wembanyama a montré l'étendue de son talent en inscrivant 30 points, prépondérant à la large victoire des Spurs contre les Pacers 140-110, un match de saison régulière délocalisé de la NBA. De retour à l'aréna de Bercy qu'il avait quitté en larmes en août 2024 après la défaite des Bleus en finale olympique contre les États-Unis. Le phénomène français du basket, également auteur de 11 rebonds, 6 passes et 5 contre, a assuré le show en réussissant plusieurs actions spectaculaires. Il jouera un second match avec San Antonio contre Indiana et ce sera samedi.
Pour finir, des nouvelles du mondial de handball masculin.
Oui, la Tunisie s'est inclinée hier 26-32 devant la République tchèque. Victoire de l'Algérie 32-23 face à la Guinée dans le match des perdants. Les deux pays n'ont toujours pas remporté le moindre match dans la compétition après 4 rencontres chacune, tout comme le Cap-Vert qui fait sa 4e sortie aujourd'hui contre l'Argentine. Seule l'Égypte, 4e, à égalité de 4 points avec la Slovénie qu'elle affronte à la faveur des matchs de la 4e journée de poule, a encore des chances de voir les quarts. Pour rappel, les trois premiers de chacun des 8 groupes du premier tour, ceux 2 premiers de chaque groupe sont qualifiés pour les quarts de finale. En cas d'égalité, les équipes sont départagées aux rencontres directes entre elles.
Page des sports VOA Afrique, signée Bagasikura.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Des combats font encore rage entre les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda et l'armée régulière de la République démocratique du Congo, dans les collines succombant Goma, mais un calme relatif est revenu aujourd'hui dans la capitale du Nord Kivu après d'intenses combats aux alentours hier. L'ONU s'est dit préoccupée par la situation des déplacés dont le nombre ne cesse de s'accroître. Eddy Sango a joint à Goma l'éditeur du journal Les Coulisses et auteur de plusieurs ouvrages sur la guerre dans l'Est de la RDC, Nikez Kibel-Bel-Oka.
Aujourd'hui, sur le front, il y a un calme relatif parce qu'il faut distinguer deux fronts. Il y a d'abord Goma qui a connu la psychose hier avec les affrontements qui étaient à la porte de Goma. À Goma, il y a un calme relatif. Les gens ont repris le travail, sauf les écoles. Par contre, les affrontements ont continué sur les montagnes, les collines surplombant Sake. Donc, les affrontements continuent.
On parle dans ces affrontements de la mort de plusieurs officiers congolais, même des certaines autorités de la province. Est-ce que c'est confirmé? Parce qu'il y a d'autres médias qui l'ont confirmé.
Je ne saurais pas confirmer ni infirmer. Nous tous, nous sommes secoués par toutes ces informations qui tombent sur la mort du gouverneur militaire. Mais nous n'avons pas encore de précisions, donc nous attendons que le porte-parole du gouvernement, aujourd'hui, lors du compte-rendu de la réunion du Conseil des ministres, puisse nous donner la bonne version.
Les FRDC, l'armée régulière congolaise, a annoncé une contre-offensive avec beaucoup d'armement. Est-ce que cela a produit quelque chose? Est-ce qu'ils ont repris des sites de main des rebelles?
Bon, il y a eu la contre-offensive hier, effectivement, qui a épargné la ville de Goma. Le combat continue et on n'est pas vraiment au front pour savoir comment ça se dira. Le combat continue. Il y a les FARDC, la SAMI et les DRC qui sont au front.
SAMI, c'est les forces de la SADC. Hein?
De la SADC, oui. Les forces de la SADC en train d'affronter la RDF qui appuie les M23.
L'ONU s'est dit préoccupée par les nombres de déplacés qui avoisinent les demi-millions. On parle de plus de 400 000 personnes qui ont récemment fui. Quelle est la situation de ces gens-là?
D'abord, il y a les populations déplacées viennent généralement de Masisi, du territoire de Masisi et de Rutshuru. Donc la dernière vague est venue de Mbumu dans les Masisi, Sake jusqu'à Goma. Mais il faut dire vraiment que ce sont des larmes de crocodile. Il y a pratiquement plus de 2 millions de déplacés autour de la ville de Goma avec les 400 000 qui viennent de s'ajouter. Ça fait tout un problème, c'est toute une charge incroyable. Il n'y a pas de mots pour décrire cette misère et qui blesse notamment l'intimité des gens qui dorment soit à la belle étoile, soit sous des tentes.
Et ce sont des gens qui étaient déjà des déplacés qui sont obligés à nouveau de fuir, hein, de se déplacer à nouveau.
Exactement, c'est des gens qui étaient déplacés, qui sont dans l'errance totale. Lorsqu'il y a des bombes qui tombent dans des camps de déplacés, parce que la RDF M23 lance des bombes dans des camps de déplacés, et les déplacés sortent, ils courent et ils ne savent pas à quel sens se vouer. Donc la situation, c'est une catastrophe humanitaire indescriptible.
Nikez Kibel-Bel-Oka, éditeur du journal Les Coulisses en RDC.
Restez branchés sur VOA Afrique, à Goma, sur 96.2 FM.
De la sécurité à la politique, la diffusion de fausses informations est une menace constante au Burkina Faso. Gildas Da, notre correspondant, se penche sur le problème.
Une démonstration d'unité entre le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso et l'ambassadeur de Chine en octobre. Une fausse information avait affirmé que les deux pays avaient rompu leurs relations. Le ministre Karamoko Jean-Marie Traoré et son hôte ont qualifié cette rumeur de sabotage diplomatique. Sur les réseaux sociaux et dans les groupes WhatsApp, les fausses informations constituent une menace constante. Jordan Meda est le directeur éditorial de la plateforme burkinabé de vérification des faits face au Tchèque. Il distingue deux types de fausses informations. La mésinformation est partagée sans intention de nuire.
À côté, il y a ce qu'on appelle la malinformation, qui est là, à l'opposé de l'autre, la production et la diffusion de contenus faux, avec clairement pour objectif de tromper la communauté ou un individu et de nuire clairement à un individu ou à une cause donnée ou à une institution donnée.
À l'Observateur Palga, l'un des principaux quotidiens du Burkina, le journaliste Hugues Sama explique que l'équipe du journal prend ce problème très au sérieux.
Et même un œil averti peut souvent en tout cas s'y tromper. Donc ce que l'Observateur fait, c'est le recul du journaliste par rapport à toute information qu'il reçoit. Et il faut aussi vérifier.
Lorsque le capitaine Ibrahim Traoré avait disparu de la scène publique pendant quelques jours en juin, des vidéos fabriquées et des spéculations ont envahi les réseaux sociaux. La vérité a été établie par des vérificateurs de faits compétents. Mais ces types d'incidents peuvent être dommageables selon les experts.
Pour qu'un citoyen soit bien renseigné, il faut qu'il ait accès à une information, en fait, juste une information équilibrée. À partir du moment où il est noyé en fait par les fake news, il n'a pas toutes les informations nécessaires en vue d'avoir un regard éclairé sur la vie de la nation. Cela pose problème.
Meda affirme que les puissances mondiales rivalisent d'influence dans le Sahel en promouvant leur propre narratif. Mais il précise qu'elles ne sont pas seules.
Maintenant, à l'interne, vous avez aussi des groupes de gens qui, convaincus de ce qu'ils pensent, propagent des narratifs faux. Ils les diffusent, les gens y croient.
Les analystes affirment que le conflit en cours au Burkina est facteur d'intensification de la propagation de fausses informations. Selon Jordan Meda, les avancées technologiques risquent d'amplifier la portée et l'impact de la désinformation, rendant les efforts des vérificateurs d'informations encore plus cruciaux. Gilles Dasda, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Le président Donald Trump se rend ce vendredi dans des régions des États-Unis dévastées par des ouragans et des incendies. Il s'arrêtera en Caroline du Nord, frappée par l'ouragan Helene en septembre dernier, puis à Los Angeles, en Californie, où les incendies se poursuivent et où plus de 100 000 personnes sont sous le coup d'un ordre d'évacuation. Un reportage de Genia Dulot à Los Angeles, le récit est de Dilly Dico.
Richard et Bushra Mauser sont revenus voir ce qui, il y a seulement deux semaines, était leur belle maison depuis 25 ans dans la banlieue de Los Angeles à Altadena, en Californie.
C'est presque impossible d'entrer là-dedans et de trouver quoi que ce soit. Quand on trouve quelque chose, c'est entièrement fondu. Tous les métaux ont fondu. J'avais du matériel audio haut de gamme à l'intérieur et je pensais qu'il aurait pu survivre au feu et qu'il serait au moins partiellement intact. Mais plus je creuse, plus je me rends compte que tout n'est qu'un amas de métal fondu.
La famille Mauser a été hébergée dans un hôtel local et espère que l'assurance les aidera à reconstruire.
Nous vivons maintenant dans l'incertitude et dans une bulle, et nous nous contentons de faire face à notre perte parce que nous sommes encore sous le choc et dans le déni. Chaque matin, on se réveille et on se dit, c'était peut-être un rêve, je vais rentrer chez moi. Mais quand on vient ici, on voit la réalité.
Le feu n'a pas atteint la maison de José Velasquez à Altadena. Avec sa famille, il a organisé une collecte de dons auprès de leurs voisins. Il affirme qu'au moins 400 personnes sont venues demander de l'aide au cours des 12 derniers jours et qu'elles ont l'impression d'être livrées à elles-mêmes.
De toute façon, nous n'avons pas vraiment bénéficié de l'aide du gouvernement. C'est la communauté qui s'est mobilisée pour s'entraider. La mère n'est pas venue nous voir. Il n'y a eu aucune visite de la mairie, rien. Nous avons l'impression d'être seuls dans cette affaire. Il n'y a que la communauté.
La maire de Los Angeles, Karen Bass, a bien visité certains quartiers de Pacific Palisades, comme on peut le voir sur ce post Instagram où elle note « Nous allons faire tout ce que nous pouvons pour reconstruire et ramener les habitants de Los Angeles chez eux ». Le président Donald Trump a critiqué la réponse des autorités locales à l'incendie dans son discours d'investiture cette semaine, affirmant que les incendies de Los Angeles sont toujours actifs, sans aucune défense. Le site web du gouverneur de Californie, Gavin Newsom, indique que le chef de l'État a pris plusieurs mesures pour lutter contre les incendies, notamment en ordonnant le prépositionnement de personnel de lutte dans des lieux stratégiques du sud de la Californie avant les incendies et en déployant plus de 16 000 pompiers et autres personnels en réponse à la situation d'urgence. Entre-temps, un nouvel incendie, l'incendie Hughes, s'est déclaré dans les montagnes au nord de Los Angeles mercredi, prenant rapidement de l'ampleur et forçant l'évacuation de 31 000 personnes dans la soirée. À la suite de la visite de Donald Trump, la Californie du Sud pourrait recevoir ce week-end des pluies dont elle a grand besoin, ce qui pourrait atténuer les incendies de forêt mais raviver les inquiétudes concernant les cendres potentiellement toxiques.
Le président américain Donald Trump a ordonné jeudi la déclassification des archives du gouvernement américain sur les assassinats du président John Kennedy en 1963, de son frère Robert Kennedy en 1968, ainsi que du leader des droits civiques Martin Luther King. La même année, beaucoup de gens attendent ça depuis des années, des décennies, a déclaré à la presse le nouveau locataire de la Maison-Blanche au moment de signer le décret. Pour analyser les enjeux de cette déclassification, Mouamadou Mfa a joint l'historien Mohamed Mbodj, professeur à Manhattanville College à New York.
Autour de Trump, il y a beaucoup de gens qui croient à ces histoires de complot que le Deep State, donc l'État profond, entreprend des malversations, des coups tordus que le grand public ne connaît pas, n'est pas mis au courant. Et donc, il y a une sorte de prédisposition à publier tous ces documents, sous-entendu que ce sont des secrets d'État que l'État ne voulait pas sortir. La deuxième chose, c'est bien entendu le fils de Kennedy, qui est maintenant dans l'entourage de M. Trump. Lui-même a des doutes sur qui a tué son père et sur les motifs donc de son assassinat. Certainement, c'est quelqu'un qu'on peut suspecter d'avoir poussé M. Trump à dévoiler ses documents. Et Martin Luther King, ça aussi, ça participe de la même histoire.
Alors pourquoi était-il nécessaire de garder secrètes ces informations et en règle générale, pourquoi le gouvernement choisit-il de cacher certaines informations au grand public?
Ce sont des dossiers personnels après tout. Ce sont des individus qui ont vécu, qui ont de la famille, ce qui fait que dans les enquêtes autour de ces assassinats, il y a certainement des secrets que peut-être la famille ne veut pas étaler au grand jour. Et d'une manière générale, et dans tous les pays du monde, et en particulier dans tous les pays démocratiques, il y a une sorte de protection de l'identité et de l'honneur des gens, même s'ils sont morts et disparus. Il y a beaucoup de choses que l'État lui-même, et la justice en particulier, ne voudrait pas étaler au grand jour. L'État a ses méthodes d'infiltration et il a ses indices. Et donc, lorsque ces papiers sont révélés, ce sont les tactiques, les stratégies des polices qui ont été les indicateurs éventuels. C'est-à-dire, est-ce que la CIA n'espionnait même pas le président Kennedy lui-même? Donc, ces choses-là vont sortir et certainement ajouter à une plus grande méfiance vis-à-vis de l'État. Donc, on peut très bien comprendre que l'État et les États d'une manière générale hésitent souvent à mettre sur la place publique les détails de ces enquêtes.
On comprend donc la prudence de l'État, mais pour le grand public, qu'est-ce que ça changerait de savoir qui a tué les frères Kennedy et Martin Luther King environ 60 ans plus tard?
Et c'est là où se pose le problème. Je ne pense pas que le grand public apprenne grand-chose. Est-ce qu'il y a une vérité absolue qui va en sortir? Je ne pense pas. Mais les enquêteurs de l'époque, beaucoup de gens ne les ont pas cru. Et on fait des films, on fait des livres, on fait des articles pour dire que l'État ment. Donc il y aura toujours une catégorie de personnes plus ou moins importantes qui pensent que l'État ne dit pas la vérité. Et lorsque ces papiers-là vont sortir, ça ne va pas changer leur disposition d'esprit. Sauf si, maintenant, dans ces papiers, l'État lui-même avoue qu'en réalité, ce qu'il a rendu public à l'époque était une fabrication et qu'il y a une autre vérité à dire.
C'était l'historien Mohamed Mbodj. Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro. À la mise en onde, Joselle Morissin. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, la plateforme X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.